חברים יקרים וחביבים, השם עליכם תחיו לאורך ימים טובים ושנים נעימים. Nous poursuivons notre analyse, notre étude, notre apprentissage sur certaines facettes de la mitzvah, des mitzvot de Purim et de la lecture de la Megillah, selon les enseignements profonds de Rabbeinu Ha'ari dans Peri Etz Haim. Donc il dit au chapitre 6, de Peri Etz Haim et Peri Etz Haim, il dit Ve'inyan mishloach manot ish lere'ehu umatanot la'evyonim. Dit quel est ce concept innové par Esther et par nos maîtres qui ont institué d'envoyer des matanot ish lere'ehu et mishloach manot, des manot, des parts, des mets, de mets à une personne, à un ami, et donner Matanot la Evionim, donner des matanot, deux cadeaux à deux Evionim, à deux pauvres. Et dit Amanot, c'est un pluriel. Ils sont Hesed de Gvura. Il y a deux facettes dans notre personnalité, dans ce que nous possédons. Il y a la facette de bonté et il y a la facette de rigueur. Ce qui conjugué se diffuse en ce monde. Donc nous avons déjà précisé que le jour de Purim s'illumine les facettes, les lumières spécifiques qui sont symbolisées par Mordechai et Esther, qui sont la partie masculine et la lumière féminine qui se conjuguent pour illuminer en ce monde. C'est comme cela que nos ancêtres ont réussi à faire tchouva et à renverser la situation. Vilitani les malchoutes, à qui sont-ils donnés? Quand on est dans la situation de recevoir, on est dans la situation du malchout, de la dernière séphira, celle qui reçoit, qui n'a rien de par elle-même et on lui octroie. Donc on donne à quelqu'un quand il est... Il peut être cette personne-là une fois dans la situation de donner, une fois dans la situation de recevoir. Quand il reçoit, on lui octroie des lumières, des énergies. Donc c'est le receveur, il se construit par ce qu'on lui a envoyé. Ve'em mishtalhim mitat sheba liyesod sheba. Alors qui est-ce qui envoie à qui? L'envoyeur, il est dans le concept de l'harmonie. Puisqu'il va harmoniser, l'harmonie c'est une qualité qui équilibre les extrêmes entre la rigueur et la bonté. Donc celui qui arrive à conjuguer ces deux aspects, donc il les conjugue et il arrive à les maîtriser et il va les octroyer à celui qui est en dessous de lui, qui les reçoit, c'est le Tiferet qui va les envoyer au Yesod. Le Yesod étant toujours le cas, il ne possède pas d'énergie propre, il va diffuser les énergies qu'il reçoit. C'est la Behinat de Yosef. C'est comme si que Yaakov, il envoie deux cadeaux à Yosef, qui est sa continuité. Donc, elle est Toldot, Yaakov, Yosef. Et Yaakov, de quoi est-il formé, constitué? D'une part, des qualités de Abraham, et d'autre part, des qualités de Yitzhak, qui sont deux opposés. Et lui arrive à les équilibrer. Donc, Umatanot la Evioni. Donc, ça, c'est Mishloach Manot. Donc, quand on envoie les Mishloach Manot, il convient d'y investir. C'est pas juste envoyer, c'est que dans chaque élément qui constitue le panier que nous envoyons, le plateau que nous envoyons à notre ami, on va y insuffler les énergies, nos énergies propres, notre propre élément particulier qui nous caractérise, la singularité de chacun à travers les différentes facettes de sa personnalité. Mais évidemment, il faut prendre que les éléments positifs. Donc, quand quelqu'un il a un panier et il prépare son Mishloach Manot, alors il veut non seulement octroyer des baies agréables, que ce soit de la viande, du poisson, des gâteaux, peu importe, du vin, il essaie d'envoyer pour faire plaisir à son ami, Mais il doit y investir, y avoir, y insuffler ses propres énergies particulières, les meilleures. De sorte que celui qui reçoit, il va recevoir non seulement les mets agréables, qui constituent la matière, l'essentiel de ce qu'on reçoit, mais ce qui y a été insufflé dedans, comme nous l'avons dit à une autre occasion. Celui qui reçoit, alors on lui octroie, il est dans la position du receveur, il est comme celui qui reçoit, comme un enfant qui reçoit, qui est assisté, qui est dans la situation d'être assisté et pris en charge. Et quand il reçoit, il va pouvoir se grandir et profiter les éléments qui lui sont donnés, vont lui permettre de se construire et se grandir dans une optique qui lui était jusqu'alors, à laquelle il n'avait pas accès. Donc c'est une fenêtre qui lui donne une possibilité, une fenêtre de s'ouvrir vers d'autres horizons. Ça, c'est le concept de Matanot, dit Mimishlo Amanot. Matanot, la Evioni, et Chochma Obina, c'est là. Donc c'est la Chochma Obina, c'est un niveau quelque peu supérieur. Donc Chochma et Bina et se conjuguent Evion, c'est-à-dire que celui, le maître qui détient la connaissance, deux facettes de la connaissance, Chochma et Bina, le savoir propre et le discernement et l'ingéniosité du renouveau du savoir. C'est Chochma et Bina. Il va les envoyer à son disciple, à celui qui est dans la position de recevoir, qui est par rapport à ce savoir-là, et vient, il est ignorant, il est pauvre de ce savoir. Donc il va lui octroyer cela. Mais Kolzehu le Agdila, afin de ce qu'il puisse se grandir, que ses propres énergies puissent se conjuguer avec celles qu'il reçoit, de manière à pouvoir encore plus se grandir et aller de l'avant, et illuminer plus. Lui-même, il va pouvoir ainsi rayonner sur les autres de manière plus puissante. C'est le sens de Matanot et Ish, Matanot Laibonim et de Mishlo Armanot. Il ne s'agit pas uniquement, encore une fois, de donner à manger à son ami. Il s'agit de lui faire goûter quelque chose qui, a priori, n'avait pas accès à cela. Il n'a pas. D'ailleurs, dans les temps passés, dans les communautés, chaque famille préparait un mets spécifique, dont le secret était, la maîtresse de maison avait le secret de préparation, elle savait faire quelque chose de particulier. Et on partageait ce mets exceptionnel, le jour de Purim, avec ses voisins, avec les gens qui n'avaient pas l'habitude d'y goûter, afin qu'ils puissent en apprécier le goût. Donc ce sont les énergies spécifiques qui sont investies dans ce mets, et qu'on essaie de partager, de faire partager au plus grand nombre. Et inversement, de sorte que c'est ici le sens des énergies que l'on va diffuser, chacun va diffuser ses propres énergies spécifiques pour en faire rayonner. Donc c'est la conjugaison des énergies, c'est l'opportunité où les horizons s'ouvrent, les écrans s'ouvrent, c'est des fenêtres qui s'ouvrent dans l'horizon de chacun pour atteindre des connaissances dont il n'avait pas accès, des qualités qui lui étaient a priori inaccessibles jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que celui qui lui envoie lui ouvre lui-même la porte de cette lui donne l'accessibilité à cela. Et ça, c'est le sens des lumières de Hanouka, les lumières de Purim, qui se renouvellent de manière continuelle d'année en année. Et même si le miracle s'est passé, les lumières, ce rayonnement n'est jamais perdu, il se renouvelle d'année en année. Et c'est pour cela que, d'une part, nous lisons la Megillah. Megillah, dans le sens de dévoiler les lumières contenues dans la Megillah, qui contiennent, la Megillah n'étant pas une histoire, étant le récit, le texte qui contient la lumière du miracle, la lumière de la connaissance, la lumière de la délivrance, la lumière de l'apparition subite et soudaine de la providence de manière extraordinaire qui a aveuglé tous ceux qui de l'amplitude et l'intensité de cette lumière, et l'a aveuglé les Réchaïm. Et le trône et la puissance de Dieu a été établi. Cette lumière-là, Elle se renouvelle à travers la lecture. Et à travers les mitzvot, nous la partageons. Nous partageons ces lumières. C'est pour ça que Chachamim nous disent, mais vatlim Talmud Torah le Mikra Megillah. On annule l'étude de la Torah, on arrête l'étude pour aller écouter la Megillah. On arrête même la construction du temple. On arrête même les sacrifices pour aller écouter la Mikra Megillah. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique, d'exceptionnel? Il dit parce que la Mikra Megillah est bien au-delà, bien au-dessus de l'étude de la Torah. Parce que l'étude de la Torah, quand on étudie la Torah, on dévoile l'étude de la Torah, chacun, quand il se consacre à l'étude, il ne se consacre qu'un détail, qu'un point de l'étude. Il peut pas, dans son étude, englober l'ensemble de l'immensité de l'océan, du savoir de la Torah. Donc il s'occupe d'un point. Ce point peut l'illuminer. Mais dans la Mikra Megillah, c'est l'ensemble de la Torah qui s'illumine. L'ensemble de du rayonnement total de la Torah qui est inclus, qui est enfoui dans la lecture de la Megillah. C'est pour ça qu'on dit, on a lu l'étude spécifique, particulière du détail pour s'adonner à la lumière et illuminer de la lumière globale de contenu dans la Megillah qui est ce qu'on a dit à plusieurs reprises. Yesod de Abba. Yesod de Abba, c'est le tzaddik qui va, la volonté première, le canal par lequel les flux lumineux de la volonté divine se diffusent dans ce monde et maintiennent le monde dans son existence. Et les flux qui sont renouvelés, innovés, amplifiés d'une intensité accrue d'année en année. Ça, c'est le sens de la lecture. C'est ça l'idée qui est marqué dans cette mitzvah spécifique. C'est pour cela que quand on lit la Megillah, on la déroule entièrement. On la déroule. On doit être mégalé. On doit faire en sorte que les lumières puissent jaillir facilement. Et on la lit comme on lit une iguérette, une lettre, une missive. Et après, donc c'est ça l'idée. Donc il y a le déroulement de la Megillah, du parchemin. Et en plus, il y a la lecture de la Higueret. C'est-à-dire que dans la lecture, il y a ici un secret exceptionnel. C'est que quand nous lisons la Megillah, nous devons y mettre l'intonation qui correspond à chaque événement. Quand on lit le texte et on fait le récit du début, donc on place les éléments, c'est un récit qui a d'une certaine intensité, on doit prendre un certain ton. Quand on dit les paroles du roi, alors on doit parler comme si on est dans le rôle du roi. Si c'est Aman, alors on parle comme Aman l'aurait fait. On parle comme Mordechai, on parle comme Mordechai l'aurait fait. C'est-à-dire qu'on est le lecteur de la Megillah. Il est dans le rôle de chacun des personnages et du narrateur. Donc ce n'est pas juste un récit, c'est jouer, rentrer dans le rôle des individus. De sorte que la lecture est vivante. La lecture, les mots que Mordechai dit dans la Megillah, ils sont réels. C'est une réalité. Je vis, je suis dans le rôle de Mordechai et quand je dis ces paroles, je les fais revivre. Mordechai est vivant. C'est les lumières que contiennent le texte et les paroles. Le texte qui correspond à Mordechai est vivant. C'est ça le sens de dévoiler Nikret qui est Igeret. C'est donner la puissance aux mots. C'est pas juste une lecture. Après cela, on va manger. Achila Oshtia. Eh bien, Akavana, c'est la charge, Asinota, part souffle. Donc, après qu'on a construit la structure de la délivrance, de la lumière qui se dévoile, alors, on doit, la charge, Asinota, part souffle, bah, Bessod, maintenant. Alors, on a fait Matanot, la Evionim, on l'a construit. On a développé la structure des lumières qui se répandent à travers Matanot, la Evionim et Mishloach Manot. On a fait cela aussi dans la lecture. Après, on doit reposer les éléments. Il faut que ces éléments-là, nous arrivions à les intégrer, à les digérer. C'est le sens du michté que l'on doit manger. On doit, et non seulement ça, il est dit dans les textes que cette lumière-là doit s'amplifier, elle doit s'augmenter, se multiplier. Alors c'est pour ça qu'il y a une mitzvah de manger et de boire le jour de Purim. Mais ça rire les chaven ba'achila. Donc c'est des énergies supplémentaires qui nous sont octroyées. qui sont ce qu'on appelle les mouhin. Mais c'est vrai, les chaven bachila, les bet yod ke, bemilo yodin. Yod ke, yod ke. Alors, on va dire la chose suivante. Achila, le mot achila, il est composé de achal, yod ke. On divise le mot achila. Achila ou shtia. Achila, ça s'écrit a, alef, raf, yod, lamedhe. Dans ce mot-là, il y a les deux lettres yod ke. Ce qui sont les énergies qui nous parviennent dans l'alimentation que l'on fait, dans notre alimentation, qui viennent des énergies qui viennent du nom de Dieu, Yodke. Dans la Shetia, on boit. Alors, Shin, Tav, Yodke. Là aussi, il y a marqué Yodke. Donc, les boissons aussi que l'on avale aussi contiennent ces énergies-là. Donc, il y a deux sortes d'énergies qui sont une part dans la Achila et d'autre part dans la Shetia. Et les deux sont yod ke, yod ke. Quand on développe le yod, quand on le développe, il est écrit yod, une petite lettre. Mais quand on le prononce, ça fait yod vav dalet, valeur numérique 20. Et le he, alors c'est un he et un yod. 35, ça fait 15. 20 et 15, ça fait 35. À deux reprises, yod ke, ça fait 70. 35 et 35, 70. Il y a ici allusion certaine aux 70 jours qu'il y a dans entre les premières et les lettres, les écritures, l'écriture des premières lettres et l'écriture des deuxièmes lettres. Les premières lettres ont été écrites par Aman, les décrets néfastes, négatifs, a été écrit le 13 Nissan, et les deuxièmes lettres, celles que Esther va envoyer après, sous l'ordre du roi, sont écrites le 23 Sivan. Donc, 70 jours plus tard. Allusion au secret des 70 facettes de la Torah, des 70 énergies différentes contenues dans la Torah, etc. Alors, deux fois yod ke. Alors, ça fait 70. Bet pe'amim yod ke, yod ke. Quand on les remplit comme on l'a dit, ça fait 70. Géo. Alors, cette énergie que nous allons ingurgiter, prendre en nous, il faut pas oublier de se remplir de ces énergies afin de pouvoir se grandir, de pouvoir établir la structure. C'est un jour particulier où les énergies sont diffusées de manière sans limite, et c'est ça le sens de manger et de boire en ce jour. Et nous dire à Benou Hari, puisqu'il s'agit en fait de la construction du malchut, de la féminité qui va, la providence et la présence de la Shekhina qui se construit, donc c'est la partie féminine. Alors l'achila, la consommation des mets, elle se fait par la droite, tandis que la boisson c'est du vin, elle est à gauche, c'est la partie féminine. Donc c'est pour cela qu'il convient qu'il y ait plus à boire qu'à manger. D'accord? Dans toute la Megillah, quand chaque fois qu'il est mentionné qu'ils ont fait un banquet, Mishte Ayahin, en réalité, c'était, ils mangeaient, mais essentiellement ils buvaient. Parce que là aussi, c'est la construction de la Malchut. Le Mishte lui-même consiste à construire la féminité de la présence, de dévoilement de la présence de Dieu à travers la boisson. À travers le vin rouge qu'on va maîtriser, le vin rouge gardé, nous avons déjà dit qu'il y a deux sortes de vin. Il y a le vin négatif qui cause du tort, que la Gemara dit, celui qui voit une vigne ou du vin dans son rêve. Alors pour certains, ça peut être positif, ça peut le transporter, atteindre grâce à cette... Il boit du vin bien vieux, du bon vin de qualité, qui est gardé pour les justes à la fin des temps, il est transporté, il peut atteindre la prophétie. Et il y en a qui boivent et qui boivent du mauvais vin, et le vin est mauvais pour eux, donc ils vont le vin qui est négatif, il cause des dommages. Ici, il s'agit de boire du bon vin, de boire du vin qui ne saoule pas, qui juste transporte l'individu un peu vers les hauteurs. Donc il y a lieu, et ce vin-là, rouge, maîtrisé, il convient qu'il y ait plus à boire plus que manger. Évidemment, tout ça dans le concept de réparer les éléments spirituels.
Et à ce sujet, nous mettons dit, Tzarich inish li basume bepuria, ad eloyada ben aruraman le baruch mordecha. Il doit boire et s'embaumer le cerveau, l'esprit, avec le vin, les effluves du vin doivent monter et lui permettre de se, d'être troublé un peu, de perdre un peu son date, il ne sait plus. Et il va dire Baruch Aman au lieu de dire Baruch Mordechai. Il va confondre. Quelle est l'intention de cela? Nous dit Rabbeinu Ari qui a doit chez Shnitzo chez Kdusha bechol klipa. Il dit Aman, il est de la klipa totale. Mais il a pour qu'il existe, il lui faut une étincelle, un lien avec la vie. Aman, nous avons dit de à une autre occasion, que Esav, il a une existence virtuelle, illusoire. Que Aman et Amalek ne sont qu'une existence illusoire et virtuelle, non pas une réalité physique, réelle, de vie totale, indépendante. Ils ne vivent que de la faiblesse d'Israël. Donc la faiblesse d'Israël, les Averot, le laisser aller, et ce sont des énergies perdues qui vont leur donner une structure illusoire. Mais il contient quelque part un élément vital qui lui permet de vivre, un élément sain qui lui permet de vivre. Le dire à Benoît Harry, cet élément sain, nous voulons pas qu'il disparaisse. Nous voulons le récupérer. Nous voulons lui octroyer encore de la vie. Parce qu'il viendra un jour, on va réussir à le récupérer. Donc, mais non, on veut pas faire en sorte que tout le système de la klipa y soit nourri, que l'élément vital soit nourri. Et c'est ce qu'il dit ici. Alors il nous dit, Ve'akavana hi, ki adua sheshnitso shel kdusha bechol klipa, amehayota. Dans toutes les klipas, dans tout le mal, il y a toujours une nekuda, un point d'énergie qui est bonne, qui est kadosh. Ve'imistal kumimeno, si on l'enlève ce point-là, cette source-là de vie, il restera rien, il va s'annuler, il va disparaître. Mais ne beyom agadol azé, dans ce jour exceptionnel de Purim, shiesh bi oto eragdola, il y a une puissance de kdusha totale et puissante. Anorosim shigam, on veut octroyer un peu de vie à cette nitzos qui est contenue dans Aman. Le faire vivre. Afin que un jour on pourra le récupérer. Ava lo chez Agia, on veut pas lui donner trop, parce que si on lui donne trop, alors Haman lui-même il va se grandir de ça. On veut lui donner juste pour le nitzot. Alors c'est pour cela qu'il veut laisser de sourire. C'est pour ça la raison pour laquelle il va boire. Il va perdre un petit peu le contrôle. Il sera plus où il en est. Il n'est plus conscient totalement de ce qu'il dit. Ah, c'est l'oyada, il sait plus dire Baruch Aman, Baruch Maman, Baruch Mordechai, Baruch Aman, il confond. Et il le bénit, non pas Aman, mais le Nitzos Akadosh qui est en lui. C'est, peut-être qu'il arrivera à faire cela. Ça, c'est le sens de Haya Vinish Libesume, ah, c'est l'oyada. Parce que viendra un jour où on récupérera ça quand le tikkun sera total et parfait, alors cette seignan là sera totalement réparé et rétabli le nitzos à kadosh. Donc comme il est dit, nos maîtres disent quand Yaakov il a rencontré ça, il dit je te rejoins à Seir, je vais venir, il dit apprends de l'avance, avance et moi je te rejoins. C'est-à-dire il le rejoint là à titre d'avant. Mais non, Chachamim disent que le cochon, le symbole de Esav, c'est le cochon. Alors le cochon, il s'appelle Hazir. Et nous disent les maîtres que Atid la Hazor, il va revenir. C'est le retour. Il va faire un retour. Ça veut dire le Hazir, il va devenir ruminant. Il a les sabots fondus, il va devenir ruminant. Donc il a une écoudane positive qui est, et nous disent nos maîtres, qu'en fait, que le Hazir, il a en lui les appareils qui pourraient lui permettre de ruminer. Seulement, ils sont atrophiés. Donc, il contient en lui une Nekuda Tova. Il a quelque chose en lui. Il faut la maintenir, de sorte qu'à la fin des temps, le cochon, il va devenir ruminant. C'est les organes qui permettent de ruminer, ils vont grandir, ils vont se développer, il va devenir ruminant et le cochon, il va devenir permis. Et ça, il est considéré comme étant comme étant un mouma. C'est un juif qui s'est éloigné de la religion, qui a adopté l'idolâtrie, qui s'est converti. Et il va revenir, mais malgré tout, il est considéré comme étant un juif. Il était Yehudi Mouma. Donc il va revenir. Donc c'est le tikkun de Haïssa. Le tikkun de Haïssa, c'est la nekuda pnimit, la lumière intérieure qu'on veut récupérer. On veut pas le détruire totalement. Il y a, si on le détruit totalement, même le Nitzos HaKadosh, il est perdu, on aura été en échec. Ça, c'est le sens de ce que nous dit ici Rabbeinu Ari. C'est pour cette raison-là que on va boire le vin et on va dire Baruch Aman. Chachamim ont dit que le jour de Purim, tout celui qui tend la main, on lui donne. Généralement, quelqu'un qui a une caisse de tzedaka, quand il doit le distribuer, il doit vérifier que la personne à qui il va donner cette tzedaka-là mérite vraiment. Est-ce que c'est quelqu'un qui doit recevoir ou qui mérite pas de recevoir? Est-ce que vraiment il est dans le besoin? Il est pas dans le besoin. Qu'est-ce qu'il fait de l'argent? On doit vérifier chaque chose. Chachamim ont dit, tout celui qui tend la main, on lui donne, on vérifie pas. Pourquoi? Qui a gabay chez la tzedaka, le gabay, celui qui a la caisse, qui est responsable de la caisse de tzedaka, il est considéré comme étant le yesod. Yosef Hatzadik, qui a rassemblé toutes les récoltes de l'Égypte et qui va les distribuer selon les besoins des uns et des autres. Il est dans ce rôle-là, du yesod. Ou bimehahol, alors quand, dans le courant de l'année, il faut vérifier que la tzedaka, elle va là où il faut qu'elle aille. Qui est-je? Bon, Hizadin, parce que dans le reste de l'année, quand on donne la tzedaka, ou on distribue, on doit vérifier, parce qu'il y a une rigueur qui doit s'appliquer. Parce que dans le courant de l'année, la rigueur se fait. On doit donner la tzedaka avec mesure. Celui qui est seul, on lui donne tant. On va pas donner la même somme à quelqu'un qui est seul, à quelqu'un qui a des enfants, quelqu'un qui est vieux, quelqu'un qui est jeune, etc. Chacun avec, donc, on associe au fait de donner la tzedaka, de distribuer la tzedaka à ceux qui sont dans le besoin, aussi la rigueur de savoir tel, il aura telle somme, et celui-là, il aura une autre somme, selon les situations, selon ce qu'il mérite. Aval ata, mais le jour de Purim, chez où Yesod Abba, il y a un surplus, nous avons dit déjà, que le jour de Purim, les flux qui sont ouverts, les réservoirs des flux qui se sont ouverts grâce à Mordechai et Esther, ils se sont déversés avec plus, avec amplitude, plus qu'il ne se doit, sans restriction. Donc il y a un surplus d'énergie qui sont diffusés. Alors c'est à cause de cela qu'on ne va pas limiter, on ne va pas associer la limite à la diffusion. Qui est-ce bon à Hazadin? Aval attache ou Yesod Abba et Aragedola. Il y a une diffusion de lumière sans restriction au-delà de ce qui est normal dans l'habitude. C'est-à-dire que nous avons reçu à Purim la diffusion de lumière plus que ce que normalement il aurait dû y avoir. Donc, c'est une raison de la bonté extrême de la providence, de la miséricorde divine qui s'est exprimée à travers ça. Donc, il y a un surplus de lumière qui est diffusé. Mais elle s'arrête là, c'est pour ça que, donc, on n'a pas besoin de faire le deal. C'est-à-dire, c'est comme si que la caisse de tzedaka, elle se remplit de manière automatique au-delà et plus, avec amplitude, plus que nécessaire. C'est comme si que j'ai besoin de 20 000 euros à distribuer aux pauvres, et j'ai ramassé un budget ce jour-là de 100 000 euros. Donc je suis au-delà, bien au-delà de mon budget. Je ne sais même pas comment distribuer cet argent-là. Alors je distribue avec largesse, sans médagdec. Tout celui qui tend la main, je lui donne. Et là, colle à pochette, il y a dans notre imlo. Ça, c'est le sens de cette mitzvah-là de tzedaka. Veine. Alors ici, il faut rajouter un élément. Veine. Bibrecha ha-harona, chez la Megillah. Alors, dans la dernière bénédiction de la Megillah, il est dit là-bas plusieurs termes avec des termes un peu spécifiques que nous allons voir. Alors, regardons la bénédiction. La bénédiction de la Megillah. Qu'est-il dit? Alors nous disons, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Harav et Ribenu, qui a combattu notre combat, Ve'adan et Dinenu, et qui a jugé notre jugement, Ve'anokhem et Nikmatenu, qui a vengé notre vengeance, Vam Shalem Gemul, Lechol Oyvein Afshenu, et qui a payé à tous ceux qui nous ont voulu du mal, il leur a fait payer. Ve'anivra lanu mitzarenu, et qui nous a remboursé de nos souffrances, de nos malheurs. Ici, il est dit, cinq fois le mot nous. La terminaison nous est mentionnée cinq fois. Ribenu, dinenu, nikmatenu, o nafshenu, et mitzarenu. C'est étonnant. Eh ben, ce nous-là, à valeur numérique de 50, c'est à quoi il fait allusion? Il fait allusion aux rigueurs. Les rigueurs qui sont apaisées, toutes les rigueurs des ennemis, toute la puissance des ennemis, elle n'est prise que de notre faiblesse. Elle, c'est la diffusion. Quand il y a des rigueurs, il y a cinq rigueurs qui sont manifestées, qui sont symbolisées par les cinq lettres finales des cinq lettres finales. Le kaf final, le mem final, le nun final, le p final, le tzadi final. Donc on appelle Kamenapet ou Man Tsepar, qui a valeur numérique de, toutes ces lettres-là, en valeur numérique de 280, c'est le par. Et ces lettres-là, elles symbolisent toutes les rigueurs qui peuvent s'abattre sur le monde, et toutes les puissances qui se diffusent après, qui sont détournées du droit chemin, et qui vont donner la puissance au Rechaim, le pouvoir, et qui pour faire du mal, ils ne viennent que de là-bas. Parce que s'ils sont pas maîtrisés, alors ça peut se diffuser sans limite, et les Rechaim, la clipote, ils prennent le pouvoir. Là, on doit les maîtriser, on doit les apaiser, on doit les dominer. Et on veut surtout que ça s'applique sur les méchants. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on dit nous, 5 fois 56, c'est valeur numérique 280. Nous, dans ce cas-là, nous ne voulons pas qu'elles soient totalement apaisées. Nous voulons qu'elles restent dans leur amplitude, dans leur intensité. Et qu'elles s'appliquent sur les ennemis. Les ennemis, ils ont 5 facettes. Ils se situent sur 5 niveaux d'énergie. Ils peuvent nous attaquer de différentes manières. Des fois, ils se font nos amis. Des fois, ils se font nos voisins. Des fois, ils se déclarent carrément nos ennemis. Des fois, ils font du mal par la parole. Des fois, ils font du mal par les actes, etc. Il y a différentes facettes par lesquelles les ennemis agissent contre nous, sans que parfois nous ne soyons au courant de ce qui se passe. Ici, quand nous disons les cinq fois « nous »,« ribenu »,« dinenu », etc., nous employons ces cinq sortes d'énergie, les 280, qu'il se divise à tous les niveaux. C'est pour ça qu'on emploie des termes différents. Harav et Ribenu, qui a lutté contre notre dispute, notre guerre. Adan et Dinenu, qui a jugé notre jugement, qui a vengé notre vengeance, et qui a payé, qui a fait payer à ceux qui nous ont fait du mal, ce qu'ils nous ont fait. Venifra lanu mitzarenu, et qui nous a remboursé, qui a fait payer là, notre terme, Nifra, c'est comme si qu'il les a... Il les a fait payer ce qu'ils ont voulu nous faire. Donc ici aussi encore cinq niveaux différents, cinq facettes différentes, et à chacune des facettes va se diriger un flux de rigueur pour détruire les ennemis. Aujourd'hui, pas les ennemis d'il y a 2000 ans, les 2500 ans, les ennemis d'aujourd'hui. Les ennemis d'aujourd'hui qui nous guettent, qui nous assiègent, et on ne sait même pas qu'ils veulent, ils nous veulent du mal, on n'est même pas conscient de ça. Et c'est à travers ces mots-là que nous leur diffusons les rigueurs pour les éliminer, pour que leur projet ne se soit pas mené à bien, qu'ils perdent leur force, qu'ils ne savent même pas pourquoi ils n'arrivent pas à réussir dans leur projet néfaste. Et Akadosh Baruch Hu leur enlève les énergies et leur donne que, et les juge de manière rigoureuse. C'est ce qui s'est passé pour Aman, qui a été pendu là où il a voulu, ce qu'il a voulu faire, et là où il a voulu pendre Mordechai, c'est lui qui a été pendu, lui, et tous les éléments de la Touma, qui sont à 10 niveaux, les 10 niveaux de la Touma. En tout, il y avait 11, qui correspondent aux 11 éléments de la Ketoret, qui correspondent là où les Touma, elle prend sa source, où elle peut saisir, c'est les deux dernières lettres du nom de Dieu, Vavke. C'est ça, ce que nous disons, que tant qu'Amalek est vivant, le nom de Dieu est incomplet, et comme il dit, Giyad al-Kesia, le nom de Dieu, il est Yud-Ke seulement. Où est le Vav-Ke? Le Vav-Ke, il est saisi par Amalek. Il sait là où Amalek peut prendre ses forces. Donc il est retenu. Et nous, quand on fait la Ketoret, on élève les éléments de manière que Amalek, il n'arrive plus à saisir les énergies pour avoir la force de nous attaquer. Et c'est ça le sens. Arav et Ribeno, Adan et Dineno, etc. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.